Aristote, Morale à Nicomaque, Livre 9, Chapitre 8. Sommaire. De l'égoïsme ou amour de soi. Le méchant ne pense qu'à lui-même. L'homme de bien ne pense jamais qu'à bien faire sans considérer son propre intérêt. Sophisme pour justifier l'égoïsme. Il faut bien distinguer ce qu'on entend par ce mot, égoïsme blâmable et vulgaire, l'égoïsme qui consiste à être plus vertueux et plus désintéressé que tout le monde est fort louable. Dévouement à ses amis, à sa patrie, dédain des richesses, passion excessive pour le bien et pour la gloire. Paragraphe 1. On a élevé la question de savoir s'il convient de s'aimer soi-même de préférence à tout le reste, ou s'il ne vaut pas mieux aimer autrui. Car on blâme d'ordinaire ceux qui s'aiment excessivement eux-mêmes, et on les appelle des égoïstes, comme pour leur faire honte de cet excès. De fait, le méchant ne semble jamais agir qu'en vue de lui seul. Et plus il se déprave, plus ce vice augmente en lui. Aussi, lui reproche-t-on de ne jamais faire quoi que ce soit en dehors de ce qui le touche personnellement. L'homme honnête, au contraire, n'agit que pour le bien. Et plus il est bon, plus il agit pour le bien exclusivement et en vue de son ami, oublieux de son propre intérêt. Paragraphe 2. Mais on répond. Les faits contredisent toutes ces théories sur l'égoïsme, et ce n'est pas difficile à comprendre. Ainsi, l'on accorde qu'on doit surtout aimer celui qui est votre meilleur ami, et que le meilleur ami est celui qui veut le plus sincèrement le bien de son ami pour cet ami même, quand d'ailleurs personne au monde ne devrait le savoir. Or, ce sont là très particulièrement les conditions qu'on remplit vis-à-vis de soi-même, ainsi qu'on remplit aussi sous ce rapport toutes les autres conditions par lesquelles on définit habituellement le véritable ami. Car nous avons établi que tous les sentiments d'amitié partent d'abord de l'individu également pour se répandre de là sur les autres. Les proverbes mêmes sont tous ici d'accord avec nous. Je puis en citer de tels que ceci. Une seule âme. Entre amis, tout est commun. L'amitié, c'est l'égalité. Le genou est plus près que la jambe. Mais toutes ces expressions expriment surtout les rapports de l'individu à lui-même. Ainsi donc, l'individu est son propre ami plus étroitement que qui que ce soit. Et c'est lui-même surtout qu'il devrait aimer. De ces deux solutions diverses, on demande, non sans raison, quelle est celle que l'on doive suivre quand des deux parts il peut y avoir confiance égale. Paragraphe 3. Peut-être suffit-il de diviser ces assertions et de faire voir la part de vérité et l'espèce de vérité que chacune d'elles renferme. Si nous expliquons ce qu'on entend par égoïsme dans les deux sens, où on prend tour à tour ce mot, nous verrons tout de suite très clair dans cette question. Paragraphe 4. D'un côté, en voulant faire de ce terme un terme de reproche et d'injure, on appelle égoïste ceux qui s'attribuent à eux-mêmes la meilleure part dans les richesses, dans les honneurs, dans les plaisirs corporels. Car le vulgaire a pour tout cela les plus vives convoitises. Et comme on se jette avec empressement sur ces biens qu'on croit les plus précieux de tous, ils sont extrêmement disputés. Or, les gens qui se les disputent si ardemment ne songent qu'à satisfaire leurs désirs, leurs passions, et en général, la partie déraisonnable de leur âme. C'est bien ainsi que se conduit le vulgaire des hommes. Et la dénomination d'égoïste vient des mœurs du vulgaire qui sont déplorables. C'est avec pleine raison que dans ce sens on blâme l'égoïsme. Paragraphe 5. On ne peut nier que la plupart du temps, on n'applique ce nom d'égoïste qu'aux gens qui se gorgent de toutes ces basses jouissances et ne songent qu'à eux seuls. Mais si un homme ne cherchait jamais qu'à suivre la justice plus exactement que qui que ce soit, à pratiquer la sagesse ou telle autre vertu en un degré supérieur, en un mot, qu'il ne prétendit jamais revendiquer pour lui que de bien faire, il serait bien impossible de l'appeler égoïste et de le blâmer. Paragraphe 6. Cependant, celui-là semblerait encore plus égoïste que les autres, puisqu'il s'adjuge les choses les plus belles et les meilleures, et qu'il ne jouit que de la partie la plus relevée de son être, en obéissant docilement à tous ses ordres. Or, de même que la partie la plus importante dans la cité paraît en politique être l'État même, ou qu'elle paraît dans tout autre ordre de choses constituer le système entier, de même aussi pour l'homme, et celui-là, surtout, devrait passer pour égoïste, qui aime en lui ce principe dominant et ne cherche qu'à le satisfaire. Si l'on appelle tempérant l'homme qui se maîtrise, et intempérant celui qui ne se maîtrise pas, selon que la raison domine ou ne domine pas en eux, c'est que la raison, apparemment, est toujours identifiée avec l'individu lui-même. Et voilà aussi pourquoi les actes qui semblent les plus personnels et les plus volontaires sont ceux qu'on accomplit sous la conduite de sa raison. Il est parfaitement clair que c'est ce principe souverain qui constitue essentiellement l'individu et que l'homme honnête l'aime de préférence à tout. Il faudrait donc dire à ce compte qu'il est le plus égoïste des hommes. Mais c'est en un tout autre sens que celui qui rendrait ce nom injurieux. Ce noble égoïsme l'emporte sur l'égoïsme vulgaire, autant que vivre selon la raison l'emporte sur vivre suivant la passion, autant que désirer le bien l'emporte sur désirer ce qui paraît utile. Paragraphe 7. Ainsi donc, tout le monde accueille et loue ceux qui ne cherchent à s'élever au-dessus de leurs semblables que par la pratique du bien. Si tous les hommes en étaient à lutter uniquement de vertu et s'efforçaient de toujours faire ce qu'il y a de plus beau, la communauté tout entière verrait dans son ensemble tous ses besoins satisfaits. Et chaque individu en particulier posséderait le plus grand des biens, puisque la vertu est le plus précieux de tous. On arriverait donc à cette double conséquence. D'une part, que l'homme de bien doit être égoïste, car en faisant bien, il aura tout à la fois un grand profit personnel et il obligera en même temps les autres. Et d'autre part, que le méchant n'est pas égoïste, car il ne fera que nuire à lui-même et au prochain en suivant ses mauvaises passions. Paragraphe 8. Par suite, il y a pour le méchant discorde profonde entre ce qu'il doit faire et ce qu'il fait, tandis que l'homme vertueux ne fait que ce qu'il faut faire. Car toute intelligence choisit toujours ce qu'il y a de mieux pour elle-même, et l'homme du bien n'obéit qu'à l'intelligence et à la raison. Paragraphe 9. Il n'en est pas moins parfaitement vrai que l'homme vertueux fera beaucoup de choses pour ses amis et pour sa patrie, dût-il mourir en les servant. Il négligera les richesses, les honneurs, en un mot, tous ses biens que la foule se dispute, ne se réservant pour son partage que l'honneur de bien faire. Il aime mieux de beaucoup une vive jouissance, ne dura-t-elle que quelques instants, plutôt qu'une froide jouissance qui durerait pendant un temps plus long. Il aime mieux vivre avec gloire une seule année que de vivre de nombreuses années obscurément. Il préfère une seule action belle et grande à une multitude d'actions vulgaires. C'est là, sans doute, ce qui pousse ces hommes généreux à faire quand il le faut le sacrifice de leur vie. ils se réservent pour eux la belle et noble part, et ils livrent volontiers leur fortune si leur ruine peut enrichir des amis. L'ami a la richesse, et soit l'on a l'honneur, gardant ainsi pour soi-même un bien 100 fois plus grand. Paragraphe 10. À plus forte raison en sera-t-il de même pour les distinctions et le pouvoir. L'homme de bien abandonnera tout cela à son ami, car à ses yeux, ce désintéressement est ce qui est beau et digne de louange. De fait, on ne se trompe pas en regardant comme vertueux celui qui choisit l'honneur et le bien, de préférence à tout le reste. L'homme de bien peut même aller encore jusqu'à laisser à son ami la gloire d'agir, et il y a tel cas où il peut être plus beau de faire faire une chose à son ami que de la faire soi-même. Paragraphe 11. Ainsi donc, dans toutes les louables actions, l'homme vertueux paraît toujours se faire la part la plus large du bien, et c'est ainsi, je le répète, qu'il faut savoir être égoïste. Mais il ne faut pas l'être comme on l'est généralement. Chapitre 9. Sommaire. A-t-on besoin d'amis quand on est dans le bonheur? Argument en sens divers. A-t-on plus besoin d'amis dans le malheur que dans le bonheur? L'homme heureux ne peut être solitaire. Il a besoin de faire du bien à ses amis et de voir leurs actions vertueuses. Théognis cité. C'est encore agir vertueusement que de les contempler. Se sentir vivre et agir dans ses amis est un très vif plaisir, et on ne l'a que dans l'intimité. L'homme heureux doit avoir des amis vertueux comme lui. Paragraphe 1. On élève encore une autre question et l'on demande si, quand on est heureux, on a besoin ou si l'on n'a pas besoin d'amis. En effet, dit-on, les gens absolument fortunés et indépendants n'ont que faire de l'amitié puisqu'ils ont tous les biens, et que, se suffisant comme ils font, tandis que l'ami, qui est un autre nous-mêmes, doit nous procurer ce que nous ne pourrions nous procurer à nous seuls. C'est ce que pensait le poète quand il a dit « Quand le ciel vous soutient, qu'a-t-on besoin d'amis ?» D'autre part, quand on accorde tous les biens à l'homme heureux, il est absurde, évidemment, de ne pas lui accorder des amis, car c'est à ce qu'il semble le plus précieux des biens extérieurs. J'ajoute que si l'amitié consiste plutôt à rendre des services qu'à en recevoir, que si faire du bien autour de soi est le propre de la vertu et de l'homme vertueux, et qu'il vaille mieux obliger ses amis que des étrangers, il s'ensuit que l'homme du bien aura besoin de gens qui puissent recevoir ses bienfaits. Voilà comment on demande encore si c'est dans le malheur ou dans la fortune qu'on a le plus besoin d'amis. Parce que si l'homme dans le malheur a besoin de gens qui le secourent, l'homme heureux n'a pas moins besoin de gens à qui il puisse faire du bien. Paragraphe 2. Il est par trop absurde, à mon sens, de faire de l'homme heureux un solitaire, séparé du reste des hommes. Qui voudrait posséder tous les biens du monde à la condition d'en user pour soi tout seul? L'homme est un être sociable. La nature l'a fait pour vivre avec ses semblables. Et cette loi s'applique également à l'homme heureux. Car il a tous les biens que peut produire la nature. Et comme évidemment, il vaut mieux vivre avec des amis et des gens distingués qu'avec des étrangers ou avec le vulgaire, l'homme heureux a nécessairement besoin d'amis. Paragraphe 3. Que signifie donc la première opinion que nous avons indiquée? Et comment a-t-elle quelque chose de vrai? Est-ce parce qu'on pense vulgairement que les amis sont les gens qui sont utiles et que par suite, l'homme heureux n'aura pas besoin de tous ses secours puisqu'on suppose qu'il possède tous les biens? Il n'aura même que faire d'amis et de compagnons de plaisir. Ou du moins, il n'en aura qu'un bien faible besoin puisque sa vie, étant parfaitement agréable, peut se passer de tous les plaisirs que les autres nous apportent. Or, s'il n'a pas besoin d'amis de ce genre, c'est qu'il n'a vraiment besoin d'amis d'aucun genre. Paragraphe 4. Mais ce raisonnement n'est peut-être pas très juste. Au début de ce traité, on a dit que le bonheur est une espèce d'acte, et l'on comprend, sans peine, que l'acte arrive et se produit successivement, mais qu'il n'existe pas à l'état, en quelque sorte, de propriété qu'on possède. Or, si le bonheur consiste à vivre et à agir, l'acte d'un homme de bien est bon et agréable en soi, ainsi que je l'ai fait voir précédemment. Paragraphe 5. De plus, ce qui nous est propre et familier nous procure toujours les sentiments les plus doux, et nous pouvons bien mieux voir les autres et observer leurs actions que nous ne pouvons observer les nôtres et nous voir nous-mêmes. Par conséquent, les actions des hommes vertueux, quand ce sont des amis, doivent être vivement agréables aux cœurs honnêtes, puisqu'alors les deux amis goûtent la jouissance qui leur est la plus naturelle. Voilà donc les amis dont l'homme heureux aura besoin, puisqu'il désire contempler des actions belles et familières à sa propre nature. Et telles sont les actions de l'homme vertueux quand il est notre ami. Paragraphe 6. D'un autre côté, on admet que l'homme heureux doit vivre agréablement. Mais la vie est bien lourde pour un solitaire. Il n'est pas facile d'agir continuellement par soi seul. Il est bien plus aisé d'agir avec d'autres et pour d'autres. L'action, alors, qui est déjà si agréable par elle-même, sera plus continue. Et c'est là ce que doit rechercher l'homme heureux. L'homme vertueux, en tant que vertueux, jouit des actions de vertu et s'indigne des fautes du vice. Pareil au musicien qui se plaît aux belles mélodies et qui se dépite aux mauvaises. Paragraphe 7. D'ailleurs, c'est bien aussi une manière de s'exercer à la vertu que de vivre avec des honnêtes gens, ainsi que l'a remarqué Théognis. Et à considérer la chose plus naturellement, il est clair que l'ami vertueux est le choix naturel que l'homme vertueux doit faire. Car je le répète, ce qui est bon par nature est en soi bon et agréable pour l'homme vertueux. Or, la vie se définit dans les animaux par la faculté ou puissance qu'ils ont de sentir. Dans l'homme, elle se définit à la fois par la faculté de la sensation et par la faculté de la pensée. Mais la puissance vient toujours aboutir à l'acte. Et le principal est dans l'acte. Ainsi, il semble que vivre consiste principalement à sentir ou à penser. Et la vie est en soi une chose bonne et agréable, car c'est quelque chose de limité et de défini. Et tout ce qui est défini est déjà de la nature du bien. De plus, ce qui est bon par sa nature l'est aussi pour l'homme vertueux. Et voilà pourquoi l'on peut dire que cela doit plaire également au reste des hommes. Paragraphe 8. Mais il ne faut pas prendre ici, pour exemple, une vie mauvaise et corrompue, pas plus qu'une vie passée dans les douleurs, car une telle vie est indéfinie, tout aussi bien que les éléments qui la composent. Et ceci se comprendra plus clairement dans ce que nous dirons plus tard sur la douleur. Paragraphe 9. La vie, à elle toute seule, encore une fois, est bonne et agréable. Et ce qui le prouve bien, c'est que tout le monde y trouve des charmes, et très spécialement, les gens vertueux et fortunés. Car la vie leur est la plus désirable, et leur existence est la plus heureuse, sans contredit. Mais celui qui voit sans qu'il voit. Celui qui entend sans qu'il entend. Celui qui marche sans qu'il marche. Et de même pour tous les autres cas. il y a quelque chose en nous qui sent notre propre action, de telle sorte que nous pouvons sentir que nous sentons et penser que nous pensons. Mais sentir que nous sentons ou sentir que nous pensons, c'est sentir que nous sommes, puisque nous avons vu qu'être, c'est sentir ou penser. Or, sentir que l'on vit, c'est une de ces choses qui sont agréables en soi, car la vie est naturellement bonne. Et sentir en soi le bien que l'on possède soi-même est un vrai plaisir. C'est ainsi que la vie est chère à tout le monde, mais surtout aux gens de bien, parce que la vie est en même temps un bien et un plaisir pour eux. Et par cela seul qu'ils ont conscience du bien en soi, ils en éprouvent un plaisir profond. Paragraphe 10. Mais ce que l'homme vertueux est vis-à-vis de lui-même, il l'est à l'égard de son ami, puisque son ami n'est qu'un autre lui-même. Autant donc chacun aime et souhaite sa propre existence, autant il souhaite l'existence de son ami, ou peu s'en faut. Mais nous avons dit que si l'on aime l'être, c'est parce qu'on sent que l'être qui est en nous est bon, et ce sentiment-là est en soi plein de douceur. Il faut donc avoir aussi conscience de l'existence et de l'être de son ami, et cela n'est possible que si on vit avec lui, et si l'on échange dans cette association et paroles et pensées. C'est là véritablement ce qu'on peut appeler entre les hommes la vie commune. Et ce n'est pas, comme pour les animaux, d'être parqué simplement dans un même pâturage. Si donc l'être est en soi une chose désirable pour l'homme fortuné, parce que l'être est bon par nature et en outre agréable, il s'ensuit que l'être de notre ami est bien à peu près dans le même cas. C'est-à-dire que l'ami est évidemment un bien qu'on doit désirer. Or, ce qu'on désire pour soi, il faut arriver à le posséder réellement, ou autrement, le bonheur sur ce point serait incomplet. Donc, en résumé, l'homme, pour être absolument heureux, doit posséder de vertueux amis. Chapitre 10. Sommaire. Du nombre des amis. Pour les amis, par intérêt, il en faut peu, car on ne saurait rendre service à tous. Pour les amis de plaisir, un petit nombre suffit. Pour les amis par vertu, il n'en faut avoir qu'autant qu'on en peut aimer intimement. Le nombre en est fort restreint. L'amour, qui est l'excès de l'affection, ne s'adresse qu'à un seul être. Les amitiés illustres ne sont jamais qu'à deux, mais on peut aimer un grand nombre de ses concitoyens. Paragraphe 1. Faut-il donc se faire le plus grand nombre d'amis qu'on peut? Ou bien, comme on semble l'avoir dit avec tant de bon sens pour l'hospitalité, ni d'hôtes trop nombreux, ni l'absence des hôtes. Est-il convenable également, en fait d'amitié, de n'être pas sans amis et de ne point s'en faire un nombre exagéré? Paragraphe 2. Le mot du poète semblerait s'appliquer parfaitement bien aux relations d'amitié qui ne tiennent qu'à l'intérêt. Il est bien difficile de payer de retour et de reconnaître tous les services quand on en reçoit beaucoup, et l'existence entière n'y suffirait pas. Des amis, plus nombreux qu'il n'en faut pour les besoins ordinaires de la vie, sont fort inutiles. Ils deviennent même un embarras au bonheur. Il n'y a donc pas besoin de tant d'amis de ce genre. Quant à ceux qu'on se fait en vue du plaisir, il suffit de quelques-uns, et c'est comme l'assaisonnement dans les mets. Paragraphe 3. Restent donc les amis par vertu. Faut-il en avoir le plus grand nombre possible? Ou bien y a-t-il aussi une limite à cette foule d'amis, comme pour le nombre du citoyen dans l'État? On ne saurait faire un État avec 10 citoyens, pas plus qu'on en ferait un de 100 000. Sans doute, je ne veux pas dire qu'on peut préciser absolument un nombre fixe de citoyens, mais c'est un total qui se maintient entre certaines limites déterminées. L'approximation est analogue pour le nombre des amis. Il est également déterminé. Et c'est, si l'on veut, le plus grand nombre de personnes avec qui l'on puisse avoir une vie commune. Car la vie commune est la marque la plus certaine de l'amitié. Paragraphe 4. Mais on voit sans peine qu'il n'est pas possible de vivre avec une foule de personnes et de se partager ainsi soi-même. Ajoutez que toutes ces personnes-là doivent être amies entre elles, puisqu'il faut que toutes passent leurs jours les unes avec les autres. Et ce n'est pas un petit embarras quand il y en a beaucoup. Paragraphe 5. Il devient aussi fort difficile avec des gens si nombreux de pouvoir, pour son compte personnel, ressentir les mêmes joies ou les mêmes chagrins qu'eux. On peut s'attendre à plus d'une coïncidence fâcheuse, et tout à la fois, on devra se réjouir avec l'un et se désoler avec l'autre. Ainsi donc, il peut être bien de ne pas rechercher à se faire le plus d'amis possible, mais seulement le nombre d'amis avec lesquels il soit possible de vivre intimement. On ne peut pas être l'ami dévoué d'un grand nombre de personnes. Et c'est là ce qui fait aussi que l'amour ne peut s'attacher à plusieurs à la fois. L'amour est comme le degré supérieur et l'excès de l'affection, et il ne s'adresse jamais qu'à un seul être. Ainsi, les sentiments très vifs se concentrent sur quelques objets en petit nombre. Paragraphe 6. La réalité démontre bien évidemment qu'il en est ainsi. Ce n'est jamais avec plusieurs qu'on se lie d'une véritable et ardente amitié. Et toutes les amitiés qu'on vante et qu'on admire n'ont jamais existé qu'entre deux personnes. Les gens qui ont beaucoup d'amis et qui sont si intimes avec tous passent pour n'être les amis de qui que ce soit, si ce n'est dans les relations de la société purement civile. Et l'on dit, en parlant d'eux, que ce sont des gens qui cherchent à plaire civilement et politiquement. On peut être l'ami d'un grand nombre de gens sans même rechercher à leur plaire, et en étant seulement un honnête homme dans toute la force du mot. Mais être l'ami des gens parce qu'ils sont vertueux et les aimer pour eux-mêmes, c'est un sentiment qui ne peut jamais s'adresser à beaucoup de personnes. Et il est même préférable de n'en rencontrer que bien peu de ce genre. Chapitre 11. Sommaire. Les amis sont-ils plus nécessaires dans la prospérité ou dans le malheur? Raison dans les deux sens. La présence seule des amis et leur sympathie soulage notre peine. Elle accroît notre bonheur. N'appelez ses amis qu'avec réserve quand on est dans le chagrin. Allez spontanément vers eux quand ils souffrent. Montrez peu d'empressement à leur demander service pour soi-même, mais ne pas refuser obstinément. Résumé. Paragraphe 1. Autre question. A-t-on plutôt besoin d'amis dans la prospérité que dans la fortune? On les recherche dans les deux cas. Les gens malheureux ont besoin qu'on les aide. Les gens heureux ont besoin qu'on partage leur bonheur et qu'on reçoive leurs bienfaits, car ils veulent faire du bien autour d'eux. Les amis sont certainement plus nécessaires dans le malheur, et c'est alors qu'il faut avoir des amis utiles. Mais il est plus noble d'en avoir dans la fortune. On ne recherche dans ce cas que des gens de mérite et de vertu, et il vaut mieux, à choisir, faire du bien à des personnes de cet ordre et passer sa vie avec elle. Paragraphe 2. La présence seule des amis est un plaisir dans la mauvaise fortune. Les peines sont plus légères quand des cœurs dévoués y prennent part. Aussi pourrait-on se demander si notre soulagement vient de ce qu'il nous ôte en quelque sorte une partie du fardeau, ou bien si sans diminuer en rien le poids qui nous accable, leur présence qui nous charme et la pensée qu'ils partagent nos douleurs atténue notre peine. Mais que ce soit pour ces motifs ou pour tout autre, que nos chagrins soient soulagés, peu importe. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'effet heureux que je viens de dire se produit sur nous. Paragraphe 3. Leur présence a sans doute un résultat mélangé. Rien que de voir ses amis est déjà un vrai plaisir. C'en est un surtout quand on est malheureux. De plus, c'est comme un secours qu'il nous donne contre l'affliction. L'ami est une consolation et par sa vue et par ses paroles, pour peu qu'il soit adroit. Car il connaît le cœur de son ami et il sait précisément ce qui lui plaît et ce qui l'afflige. Paragraphe 4. Mais, peut-on dire, il est dur de sentir qu'un ami s'afflige de vos propres chagrins, et tout le monde fuit la pensée d'être un sujet de peine pour ses amis. Aussi, les gens d'un courage vraiment viril ont grand soin de ne pas faire partager leur douleur à ceux qu'ils aiment. Et, à moins qu'on ne soit complètement insensible soi-même, on ne supporte pas aisément la pensée de leur faire du chagrin. Un homme de cœur ne souffre jamais que ses amis pleurent avec lui, parce que lui-même n'est pas disposé à pleurer. Il n'y a que les femmelettes et les hommes de leur caractère qui se plaisent à voir mêler des larmes aux leurs, et qui aiment les gens à la fois et parce qu'ils sont leurs amis et parce qu'ils gémissent avec eux. Or, il est évident qu'en toute circonstance, c'est le plus noble exemple qu'il nous faut imiter. Paragraphe 5. Mais quand on est dans la prospérité, la présence des amis nous plaît doublement. Leur commerce, d'abord, nous est agréable, et ils nous donnent cette pensée, non moins douce, qu'ils jouissent avec nous des biens que nous possédons. Il semble donc que c'est surtout dans le bonheur que notre cœur devrait se plaire à convier nos amis, parce qu'il est beau de faire du bien. Au contraire, on hésite et l'on tarde à les faire venir dans le malheur, car il faut leur faire partager ses peines le moins qu'on peut. Et de là cette maxime, c'est assez que moi seul, je sois infortuné. Il ne faut vraiment les appeler que quand avec fort peu d'embarras pour eux-mêmes, ils peuvent nous rendre un grand service. Paragraphe 6. Il ne faut vraiment les appeler que quand avec fort peu d'embarras pour eux-mêmes, ils peuvent nous rendre un grand service. Paragraphe 6. C'est par des motifs tout contraires qu'il faut se rendre auprès d'amis malheureux sans être appelé et en ne suivant que le mouvement de son cœur. Car c'est le devoir d'un ami de rendre service à ses amis, surtout quand ils en ont besoin et qu'ils ne le demandent pas. C'est à la fois pour les deux amis et plus beau et plus doux. Quand on peut coopérer en quelque chose à la fortune de ses amis, il faut s'y mettre de tout cœur, car ils peuvent là aussi avoir besoin que des amis les aident. Mais il ne faut point être empressé à prendre une part personnelle aux avantages qu'ils obtiennent, parce qu'il n'est pas très beau d'aller avec tant d'ardeur réclamer un profit pour soi-même. D'un autre côté, il faut bien prendre garde aussi de déplaire à ses amis par un refus et de leur montrer, quand ils offrent, trop peu de condescendance, ce qui arrive quelquefois. Ainsi donc, en résumé, la présence des amis paraît une chose désirable dans toutes les circonstances de la vie, quelles qu'elles soient. Chapitre 12. Douceur de l'intimité. L'amitié est comme l'amour, il faut toujours se voir. occupations communes qui servent à accroître l'intimité. Les méchants se corrompent mutuellement. Les bons s'améliorent encore par leur commerce réciproque. Fin de la théorie de l'amitié. Paragraphe 1. Peut-on dire qu'il en est de l'amitié comme de l'amour? Et de même que les amants se plaisent passionnément à voir l'objet aimé et qu'ils préfèrent cette sensation à toutes les autres, parce que c'est en elle surtout que consiste et se produit l'amour, de même aussi, les amis ne recherchent-ils pas par-dessus toute chose à vivre ensemble? L'amitié est une association, et ce qu'on est pour soi-même, on l'est pour son ami. Or, ce qu'on aime en soi personnellement, c'est de sentir qu'on est, et l'on se plaît à la même idée pour son ami. Mais ce sentiment n'agit et ne se réalise que dans la vie commune. Et voilà comment les amis ont si fort raison de la désirer. L'occupation, dont on fait sa propre vie ou dans laquelle on trouve le plus de charme, est celle aussi que chacun veut faire partager à ses amis en vivant avec eux. Ainsi, les uns boivent et mangent ensemble, d'autres jouent ensemble, d'autres chassent ensemble, d'autres se livrent ensemble aux exercices du gymnase, d'autres s'appliquent ensemble aux études de la philosophie. Tous, en un mot, passent leur journée à faire ensemble ce qui les charme le plus dans la vie. Comme ils veulent vivre toujours avec des amis, ils recherchent et ils partagent toutes les occupations qui leur paraissent pouvoir augmenter cette intimité, cette vie commune. Paragraphe 2. C'est là ce qui rend aussi l'amitié des méchants si vicieuse. Tout instables qu'ils sont dans leurs affections, ils ne se communiquent que de mauvais sentiments, et ils se pervertissent d'autant plus qu'ils s'imitent mutuellement. Au contraire, l'amitié des honnêtes gens, étant honnête comme elle l'est, ne fait que s'accroître par l'intimité. Il semble même s'améliorer encore en la continuant et en se corrigeant réciproquement. On se modèle aisément les uns sur les autres quand on se plaît, et de là le proverbe « Toujours des bons, on retire du bien ». Paragraphe 3. Nous en avons fini avec la théorie de l'amitié. Passons maintenant à celle du plaisir. Fin du livre 9e.